Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir. D'élargir son vision sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des expériences. Donc j'aime bien, dans mes voyages ou mes déplacements, donner la parole à des réalisateurs, des écrivains, des photographes, des voyageurs, des artistes. Toi, tu es un peu tout ça à la fois, hein, musicien, artiste, voyageur. Avec moi, dans mon salon, Giraffe. Christophe, alias Giraffe, hein, ton nom de scène c'est Giraffe, parce qu'on te voit un peu partout sur différents festivals. Et je crois que tu fais partie un petit peu de cette famille de nomades, artistes, musiciens et un peu troubadours. Donc on va revenir sur Giraffe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? À quel moment tu t'es dit, je vais peut-être pas forcément rentrer dans la case classique du métro, boulot, dodo, mais je vais peut-être créer ma réalité et essayer de m'aligner entre ce que je peux partager, offrir au monde.
Salut Alexandre, merci de m'accueillir, ça fait grand plaisir. Comment j'en suis arrivé là? C'est vrai qu'il faut partir du début, hein. Toutes les histoires partent du début. Et l'enfance, le début c'est l'enfance. Et l'enfance c'est une période de la vie, mais c'est aussi un territoire. Et je pense que où est-ce qu'on est né, ça joue beaucoup sur qui on est. Et moi j'ai grandi dans le 93. Et du coup je me suis retrouvé dans un univers cosmopolite. Et je me suis tout de suite dirigé vers la rue par le biais du vélo déjà. C'est-à-dire que du coup je me suis mis au vélo très tôt. À 2 ans et demi, je faisais du vélo sans roulette. Et en fait j'ai commencé à arpenter les rues. Et du coup je me suis mis à rencontrer des gens qui étaient contents de me voir, qui étaient surpris de me voir déambuler comme ça à 3 ans à travers les rues et tout, à la fois inquiet et surpris et en même temps heureux. Et je pense que c'est là où j'ai pris le goût à cet espace de contact incroyable qui est la rue. Voilà. En particulier les rues du 93, où on est dans un mélange, dans un pot pourri de plein de choses, de plein de personnes, de plein de cultures, de plein d'origines, de plein de croyances différentes. Et je pense que je me suis mis à m'amuser avec ça très rapidement, dans cette rue dans laquelle j'ai grandi, qui s'appelle la rue des Fleurs. Plus tard, je lui ai rendu ce qu'elle m'a donné en organisant un festival dans cette rue-là, que j'ai appelé le Flower Street Festival. Et je crois que ce point de départ, le point de départ, cette rue où j'ai pu expérimenter le vélo, les rencontres, les premières amours, les premières chutes, les premiers gadins, les premières claques, les premiers exemples, là où j'ai pu rencontrer des voisins qui m'ont beaucoup plus inspiré que ce qu'ils imaginent. Je pense que cette première rue, la rue de mon enfance, et du coup, c'est au-delà d'une période, c'est un territoire qui restera toujours dans mon cœur à jamais et qui a influencé la suite de mon parcours nomade.
Mais quand on pense au 9-3, on pense aussi à la vie des cités, c'est ça? La rue des Fleurs fait partie de ces rues entourées par des grands buildings?
Ouais, c'est ça. La vie de la cité, c'est marrant que tu parles de la vie de la cité, parce que moi, ça me fait penser à Platon qui parle de politique. Quand il parle de politique, il parle d'organisation de la cité, avec ce terme très noble, organisation de la cité. Et en fait, dans ces rues-là, j'ai toujours vu un côté organisationnel, quelque chose qui se met en place naturellement, une forme de magie, où en fait, tout est fluide si on y met le regard, si on se détache du danger. Parce que c'est vrai qu'un enfant dans une rue, c'est beaucoup de danger. On peut se faire écraser, on peut faire une mauvaise rencontre. Mais en fait, tout s'organise de manière assez magique. Et j'ai toujours fait le lien entre les veines et les artères qu'on pouvait avoir à l'intérieur de nous et les rues. Et en fait, dans mon côté nomade, dans ma manière de découvrir le monde, j'ai toujours eu cette vision circulatoire, un peu. Où en fait, on se balade dans des rues Et en fonction des villes, des pays, des continents, eh ben en fait, on va avoir une circulation différente. On va avoir un pouls, P-O-U-L-S, un pouls différent en fonction des territoires sur lesquels on est. Et tout ça, c'est une forme d'organisation politique dans le sens platonien du terme, organisation de la cité, quelque chose qui se fait au-delà de nous-mêmes à un niveau global.
Avec quelque chose de très multiculturel, pour le coup, dans le 9-3.
Multiculturel, clairement. Et je pense que tous mes voyages, en particulier en Afrique, que j'ai pu faire après, ont été beaucoup influencés par, effectivement, ces rencontres que j'ai pu faire avec, effectivement, des communautés africaines, des communautés asiatiques. Ça a été, effectivement, beaucoup de rencontres, beaucoup d'incompréhension dans un premier temps quand t'es gamin. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tension aussi. Mais au final, tout ça génère de l'envie de comprendre. Et quand on dépasse cette incompréhension, et bah, du coup, on part à la rencontre, on part au voyage. On part en voyage et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc une bonne vingtaine d'années après, et bah, du coup, je me suis mis un peu à vivre les rêves de mon enfance, quoi.
Mais toi, tu as fait le choix donc, de continuer d'explorer ce qui se passait au-delà du 9-3, au-delà de ton quartier. Il y a cette impression, alors peut-être que c'est une image d'Épinal que j'ai, mais de côté un peu cloisonné, où quand on est dans un quartier, souvent on reste dans ce quartier.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce problème de l'entre-soi, qu'on reste toujours un peu cloîtré dans son univers. Mais je dirais quand même que en étant dans la rue, on ne peut pas vraiment être cloîtré. C'est-à-dire que du coup, un quartier n'est jamais cloîtré de manière totalement hermétique. Il y a toujours de la circulation, il y a toujours des informations qui arrivent du centre-ville, même s'ils n'y vont pas, que ce soit effectivement à Colmar ou dans les quartiers nord de Marseille ou dans ces genres de ghettos, si on pourrait exagérer le terme. Il y a toujours une circulation d'informations, de personnes, à partir du moment où on est dans la rue. C'est ça dont j'ai pris conscience avec ce principe d'organisation urbaine de rue, c'est qu'en fait on est dans la rue, on n'est pas chez soi. Et donc du coup à partir de là, on est ouvert à tous les possibles. Et qu'on soit dans un quartier, qu'on soit au centre-ville, qu'on soit dans une cité pavillonnaire, en fait il y a toujours une ouverture à l'inconnu, et c'est ça que je trouve assez magique. Et ce que tu dis par rapport à l'enfermement dans un quartier, par exemple à Colmar, eh ben du coup, plus ça va, plus je vois l'enfermement dans chaque quartier, dans chaque centre-ville, chaque cité pavillonnaire. En fait, on est toujours dans une forme d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de couleur. Il y a un peu toujours les mêmes gens qui fréquentent les mêmes endroits. Ça, c'est... On peut rien y faire. L'humain est organisé de manière relativement tribale et se rassemble entre personnes qui se ressemblent. Mais la rue permet de sortir de ça. C'est-à-dire que du coup, grâce à la rue, il y aura toujours un gars du quartier nord de Marseille qui va arriver au centre-ville. Inversement, il y aura toujours des surprises. Et je trouve cette ouverture assez essentielle, indispensable, d'autant plus au XXIe siècle, à l'ère des portables et à l'ère des écrans du numérique, qui, en fait, dans la pire version de cette évolution, nous amènerait à rester chez nous. Nous amène de plus en plus à rester chez nous et du coup de ne pas aller vers ce point de contact qui est la rue. Le point de contact qui est la rue, je dis quand même un truc par rapport à ça, c'est important, c'est que pour moi, la rue, c'est un point de contact entre soi et les autres. C'est-à-dire que à un niveau fractal, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, il y a soi, les autres et le point de contact. C'est relativement difficile d'avoir accès à l'autre. On a surtout accès au point de contact. Et c'est déjà énorme d'avoir accès à soi et au point de contact avec l'autre ou avec les autres ou avec le monde. C'est énorme. Et ce point de contact, il est essentiel. Il est essentiel et en fait, c'est vraiment sur lui qu'on peut travailler dans les relations entre personnes, mais aussi dans l'organisation de la cité avec ses rues. Ses rues, ses espaces publics, c'est là où je pense que se joue, de mon point de vue, l'avenir d'un monde meilleur.
J'y ai grandi, j'y ai pleuré, moins souvent seul qu'accompagné, ma trame de vie s'y est dessinée. Des gens si grands qui rigolent tant, des douches d'amour par tous les temps, j'ai assumé d'être un enfant. Avec un vélo ou un ballon, c'est dans la rue quelle émotion, sous notre bitume il y a des dunes. Sous leur bitume il y a des dunes. Derrière le bitume il y a des dunes. Flower Street, carrefour aux fleurs, chaque pavé a son odeur. Flower Street, Flower Street, Flower Street. Toutes ces artères mènent à nos cœurs, on est ce qu'on est sans avoir peur. Flower Street and Flower Street.
Donc toi tu as grandi 9-3 rue des Fleurs. Donc point de contact, hein, c'est vraiment là où tu as pu te frotter à l'autre, rencontrer cet autre, que ce soit dans cette dimension culturelle, dans cette dimension humaine. Mais à un moment donné, tu as quand même fait le choix de quitter la rue des Fleurs, peut-être pour explorer celle d'à côté. Mais voilà, comment est-ce que tu es passé du 9-3 à la rue, à l'artiste que les gens reconnaissent aujourd'hui comme Girafe, qui se balade avec son orchestre pour aller animer différentes rues dans la France, et pas seulement, dans le monde, si j'ai bien compris.
Le passage vers le voyage et vers l'ouverture vers d'autres rues, d'autres territoires, ça s'est fait donc grâce à la musique. Merci la musique. Du coup, grâce à des rencontres qui viennent de la musique et le fait d'aller se confronter, d'aller progresser, une volonté de progresser dans mon art. Et ça s'est passé dans la grande ville que j'avais à disposition juste à côté, c'est Paris. Et donc du coup, j'ai pu aller tout de suite expérimenter ce qu'on appelle le busking, qui est un mot anglais qui n'a malheureusement, étrangement, pas de traduction en français. C'est le principe de faire de l'art dans la rue en y mettant un chapeau. J'ai découvert la magie du busking. Et donc du coup, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais n'attendre rien de personnes dans le sens boîte de production, label, pour devenir un musicien incarné, affirmé, pas forcément reconnu, mais devenu. Moi je voulais devenir un musicien, un artiste accompli. C'était ça mon objectif, de m'émanciper, d'évoluer grâce à ça. Et je m'en suis rendu compte que je n'avais rien à attendre de personne, j'avais juste à me lever le matin, prendre mes affaires, ma grosse caisse d'homme orchestre, ma guitare, mes chansons, mon sourire, et aller dans la rue, et à partir de là, comprendre les codes de la rue. De là, je me suis mis à devenir un busker qui a commencé dans les rues de Paris, puis en voyage d'abord en France, et puis après ça m'a amené vers les autres continents. C'est une phrase, une de mes phrases un peu fétiche de Sacha Guitry, qui dit « Dans la vie, il n'y a pas une place à prendre, il y a une place à se faire ». Et en fait, le busking, c'est vraiment ça, quoi. C'est que, en fait, tu cherches pas à aller prendre la place de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit. De toute façon, tu pourras pas. Tu vas te faire sortir. Parce qu'il y a des codes, hein. Chez les buskers, par exemple, à Paris, il y a des personnes qui sont là chaque semaine. Et en fait, tu peux pas venir prendre leur place. Ça se fait pas. Donc, il y a un respect à avoir. Il y a aussi un respect vis-à-vis des commerçants, des bars, qui font leur travail aussi. Un respect par rapport aux SDF qui sont aussi chez eux dans la rue, encore plus chez eux que nous parce qu'ils y sont 24 sur 24 et ces touristes qui sont d'une autre catégorie socio-professionnelle d'un autre continent et tout ce mélange là, ça apprend une écoute. Là j'ai appris une écoute, j'ai appris à me positionner dans cet univers là et à m'y sentir comme un poisson dans l'eau.
Et ça offre un espace de liberté incroyable. Tu disais, tu te réveilles le matin, donc tu prends tes instruments, tu vas te poser dans la rue, tu fais ton art, tu joues finalement, tu joues de la musique, tu joues ce que tu es, tu développes complètement ta compétence et tu offres une saveur différente au monde puisque les gens te le rendent bien en mettant donc des pièces dans ton chapeau. Quand on parle de busking, c'est bien ça, c'est l'art des rues et c'est musicien des rues.
C'est ça, on y est. Cette pratique-là amène directement énormément de satisfaction. C'est-à-dire que quand on commence à busker, effectivement, on gagne de l'argent tout de suite. On obtient des sourires, on génère des sourires tout de suite. Et on a tout de suite l'impression d'avoir un impact positif sur le monde. Et ça développe aussi des qualités assez infinie dans plein de domaines, et ne serait-ce que le rapport à l'argent, par exemple, le fait de gagner sa vie pièce par pièce, des fois centime par centime, avoir un billet de 5 euros ou 5 dollars qui tombe comme ça, ça devient un émerveillement, dire ouais, super, incroyable. Et ben, ça donne un rapport à l'argent que je trouve assez juste, et qui fait que souvent je conseille aux jeunes d'aller tenter ça un peu, d'aller vers ce pratique de, pas forcément, tout le monde n'est pas artiste, mais des fois juste poser un petit stand, vendre des petites choses dans la rue, ça permet de développer aussi un rapport au-delà du rapport aux autres, à la confrontation et tout ça, qui est hyper intéressant, parce que dans la vie il faut savoir se confronter au regard de l'autre, et à l'autre, confronté dans un sens pas du tout martial du terme, mais confronté dans un sens juste se mettre face à face, se mettre à nu. Et bien du coup, au-delà du fait de développer ça, et bien du coup, on développe aussi des qualités infinies, le rapport à l'argent, le rapport au placement, le rapport au sourire, le rapport à l'altérité, le rapport au cosmopolite, et le rapport aussi au respect, quoi.
Seconde qui s'offre là où la vie nous mène, en symbiose avec nos forces, soufflons sur les braises pour qu'elles prennent, à casser la coquille, à libérer l'idylle, à multiplier ta beauté par 10 000. Je ne suis pas venu au monde pour te voir te consumer, je ne peux t'entendre parler d'amour sans l'incarner, que la joie soit notre mot de passe, le signe de ralliement, que le silence ne lasse. Bonheur simple d'être sur terre, de te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme une infinie prière, la chance comme un infini mystère. À l'ambassade du monde, des explorateurs de tout pays unissent leur cœur autour de la table ronde et sèment leurs graines à l'infini. À la portée de ses rangs.
Ouais, parce que ce que je vois, c'est que toi, les contraintes, tu les choisis, alors que souvent dans nos vies, les contraintes nous sont imposées. Pendant longtemps, on nous a fait croire que le progrès allait libérer l'être humain. On nous a parlé du PIB, il faut être productif, il faut produire, hein, pour créer de la valeur, alors que là, l'artiste de rue, c'est pas de la valeur qu'il crée, c'est autre chose, c'est de la joie. Et donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui quelque part gratte un peu ou peut déranger, parce qu'on ne contribue pas à l'évolution du système économique et capitaliste tel qu'il a été pensé, et on va nourrir quelque chose de plus profond qui nourrit l'être dans quelque chose de fondamental qui est la joie.
Ouais, complètement. Effectivement, on aide pas forcément à tout ce que le système veut, là où le système voudrait nous emmener, mais en même temps, on participe à deux choses. On s'intègre à la cité, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans chez soi, on s'intègre à un fonctionnement humain, écologique d'un quartier, par exemple. Donc, on joue le jeu, on fait partie de ce microcosme. On va ensuite consommer chez le boulanger, chez le tout ça. On fait partie de ça, et en même temps, en s'appuyant sur cette base-là, qui est la base du respect, du vivre ensemble, qui est une base essentielle en fait. Et bien du coup, on apporte l'autre moitié qui, pour moi, est essentielle pour le bien vivre ensemble et pour le bien vivre tout court. C'est effectivement la part d'émerveillement, la part d'inconnu, la part d'inspiration, la part d'intuition, la part de magie. Mais effectivement, cette part de magie et d'intuition, pour moi, c'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui se travaille et qui se révèle plus facilement sur un socle. Il ne s'agit pas de sortir dans la rue et d'être d'un seul coup connecté aux étoiles et de partir dans un message de légende personnelle, de vouloir donner des leçons aux gens, en fait, parce qu'il y a quelque chose de pas posé, de pas enraciné. Et c'est plus une histoire de travail, de réussir à trouver sa juste place, sans la prendre à quelqu'un, mais créer sa place. Et puis ensuite, de là, partir... partir aussi loin qu'on a envie d'aller. Parce qu'en fait, quand on est enraciné quelque part, qu'on a posé des bases, eh ben, les arbres en savent quelque chose. Après, ils peuvent monter très 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 haut, quoi.
On parle d'arbres et de prendre la route, ça me fait penser au conte de l'arbre et de la pirogue, hein, où l'homme a toujours ce double besoin, celui d'enracinement, mais aussi celui d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc le busking permet ça, permet cette notion de mouvement, de nomadisme. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, à partir de quel moment. Donc on le voit, hein, tu as grandi dans le 9-3, rue des Fleurs, la musique dans la rue t'a permis de sortir du quartier pour aller voir, tu parlais de Saint-Michel, où tu jouais aussi dans la rue, mais après il y a eu plein d'autres choses, plein d'aventures qui se sont construites, hein. Je crois que tu rentres récemment d'Afrique, où tu as aussi fait de la musique là-bas. Donc reviens un peu sur le côté nomade de l'artiste que tu es, Giraffe, artiste nomade et troubadour et musicien.
Ouais, alors le côté nomade du musicien busker que je suis, il s'est construit avec un instrument magique qui s'appelle le didgeridoo, où du coup je me suis mis la première chose, le premier objet artistique que j'ai proposé aux gens, j'étais avec une guitare accordée en open tuning. Du coup c'est la guitare assez facile à jouer, qui permet de partir un peu dans des formes de trance, et le didgeridoo. Je faisais guitare et didgeridoo en même temps, et ça a été ma formule avec laquelle j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à voyager. Avec cette formule-là, j'étais très heureux de jouer les matins, sur les marchés en particulier. L'énergie du matin, jouer du didgeridoo, c'était exceptionnel. Et en fait, je me baladais avec mon didgeridoo sur l'épaule. Et du coup, ça représentait pour les gens, même quand je ne jouais pas, ça représentait un truc complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire que 90% des gens dans le monde ne connaissent pas le didgeridoo, c'est un instrument très peu connu. Donc du coup, j'étais constamment avec mon didgeridoo sur mon épaule, à me balader, avec des gens qui me regardaient, soit avec un grand sourire, soit avec un questionnement de qu'est-ce que c'est que ça. Des gens qui me demandaient, un jour en Afrique, il y a un gars qui m'a demandé, mais avec ton bâton, là, t'es le roi de quel pays? Mais il y a un côté un peu magique, il y a un côté incompréhensible. Les gens qu'on n'en croit pas trop leurs yeux, quoi. Ça a été mon moyen de voyager, cet instrument incroyable. Pour la petite histoire, ça a été aussi un moyen de passer une frontière un jour entre la Mauritanie et le Sénégal. Ça faisait 4-5 heures que j'étais bloqué à la frontière. Ça semblait assez difficile de faire passer dans le contexte dans lequel on était à ce moment-là, pour différentes raisons. Je sentais que c'était compliqué. Ils m'ont dit, à un moment, il y a un mec qui est venu me chercher, il m'a dit, venez. Et du coup, je me suis retrouvé dans le bureau du douanier, il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient là, derrière le bureau, à me regarder comme ça. Et puis, ils m'ont regardé dans le blanc des yeux pendant plusieurs minutes. Et puis, à un moment, le douanier m'a dit, mais c'est quoi votre instrument là? Je lui dis, c'est un didgeridoo, vous voulez écouter? Il a dit oui. Du coup, là, j'ai posé le didgeridoo sur le bureau du douanier. Et là, je leur ai joué une session de didgeridoo. Et puis, à la fin, ils étaient écarquillés. Et le mec m'a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Il a posé le tampon et c'est bon. Je pense que les portes sont ouvertes. C'est des sessions assez magiques. Et c'est marrant parce que, justement, le lendemain, je me retrouve au Sénégal. Je rencontre Ablaye Sissoko, qui est le joueur de Kora, qui organisait le Festival International de Jazz. Et je le rencontre dans la rue avec mon didgeridoo. Je lui fais une session parce que du coup il était curieux. Et je me suis retrouvé 2 jours après à ouvrir le festival international de jazz de Saint-Louis du Sénégal. Un truc complètement improbable. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent grâce aux instruments en général. Le didgeridoo en particulier, parce que c'est un instrument magique, ancestral, qui a 40 à 60 000 ans d'histoire. Et c'est des choses qui nous dépassent, en fait, qui dépassent notre quotidien, notre personne, notre histoire personnelle, quoi. C'est incroyable.
Donc la musique ouvre des portes, mais aussi le mouvement. Il y a cette notion d'être en mouvement, d'être à la rencontre, d'être dans ces zones de contact dont tu parlais au début, et de se mettre simplement en mouvement. Je trouve que ça crée déjà une forme de magie.
Ouais, complètement. Surtout quand ce mouvement est motivé. Là, je parle du mouvement, le voyage. Quand le voyage est motivé par une dimension de partage musical, ça donne une notion assez incroyable, parce que qui dit partage musical dit rencontre, donc dit aller rencontrer vraiment l'endroit où tu te déplaces. Et ça a une, c'est clairement une autre dynamique que de se dire bon, j'ai bossé pendant 10 semaines là, je vais me prendre une petite semaine tranquille dans un centre de vacances, genre pour rien faire. Enfin, je veux dire, des fois on se rend pas compte, mais on va à l'étranger par exemple, dans des pays. Clairement pas pour rencontrer la culture, en s'en fichant un peu de la culture, des gens sur place, juste pour se donner du confort. Le voyage, c'est pas ça. Le voyage, c'est... on s'est reposé à la source, on se sent prêt. Si on part en voyage, c'est qu'on est prêt, en fait. C'est la dimension de « je pars en voyage pour me reposer ».
C'est là où on peut faire la différence entre partir en vacances et partir en voyage. C'est vrai que les vacances, souvent, on a un cadre, on sait quand on part, on sait quand on revient et on sait où on va. Quand on part en voyage, des fois, bah, on sait quand on part, mais on sait absolument pas où on va et on sait encore moins quand on revient. Et le voyage, c'est absolument pas reposant.
Complètement, complètement. Je sais que la vision taoïste chinoise du bon pratiquant, c'est quelqu'un qui est en errance. Et j'aime beaucoup le mot errance. Il y a un terme qui a été traduit, je ne vais plus donner en grec, je ne vais plus donner l'origine, le mot original, mais qui dit l'erreur est humaine. Et en fait, la réelle traduction de ce terme-là serait plutôt l'errance est humaine. Et l'errance, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, on ne va pas d'un point A à un point B. Enfin, si on part d'un point A, à nous de l'intégrer, de savoir d'où on vient. Mais le point B, il faut faire une croix sur le fait de savoir où est-ce qu'on va, en fait. Et plus on croit savoir où on va, et au final, plus on, à mon avis, on se trompe. Et l'idéal, c'est effectivement de ne pas perdre un objectif de vie, mais qui ne doit pas être formel, qui serait plus basé sur des qualités, sur une idée, sur un goût, un rêve, mais se laisser aller vers quelque chose d'ouvert. Et en fait, c'est vrai que dans notre société, on nous dit beaucoup « oui, convaincre, il faut avoir raison, si on réussit ce qu'on voulait faire, son objectif, réussir ses objectifs et tout. » Tout ça, c'est quand même très relatif. On est quand même aussi appelé par une partie de nous qui a envie de s'émerveiller, un enfant intérieur. Donc je pense qu'il faut planifier, c'est important de planifier, mais en même temps, c'est bien aussi de se perdre, de s'abandonner, de se laisser faire un détour. Et effectivement, quand on est en voyage, on est souvent confronté à ça, à ces choix, des fois multiples, 25 fois dans une journée, où on a la possibilité de quitter son chemin pour faire un détour, et rarement on regrette un détour.
Et on dit aussi dans le bouddhisme, ce qui est important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on va emprunter pour y arriver.
Absolument. Le principe d'être sur le chemin est une joie. C'est vrai que on commence souvent un chemin pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, en fait, le principe de vouloir aller vers un point B, c'est souvent une mauvaise raison. Et donc, du coup, le chemin, il est là pour au final, qu'on finisse par l'aimer, quoi, ce chemin, quoi. Le principe d'être en constante transformation, c'est une forme d'inconfort. Effectivement, tu parlais d'inconfort tout à l'heure, c'est vraiment ça. On est dans une forme d'inconfort qui va un peu à l'opposé de tout le confort qu'on nous propose maintenant dans notre société, qui est très utile, hein, mais qui doit aussi laisser part à une forme d'inconfort. Et moi, je me sens très bien maintenant en alternant des moments de confort et des moments d'inconfort. J'adore être chez moi, mais il y a un moment où je suis appelé par la route, je suis appelé par les voyages. C'est bien de pouvoir faire les deux. Et plus on se rencontrera, plus le monde pourra aller vers quelque chose de formidable. Je pense, par exemple, je peux terminer là-dessus avec cet exemple du Rwanda, qui est un pays en pleine résilience, 30 ans après le génocide qu'ils ont vécu. Au Rwanda, tous les samedis matins, c'est nettoyage des rues, à un niveau national, quoi. C'est-à-dire que chacun dans ses quartiers se retrouve pour nettoyer ce petite parcelle, nettoyer un autre espace public. C'est des moments de rencontre, et je leur demandais, mais du coup les magasins sont fermés le samedi matin. Ils me disaient, personne ne va dans les magasins, pourquoi ils seraient ouverts? C'est tout le monde est dans cette démarche de s'occuper des biens communs. Dans les biens communs, il y a la rue, il y a aussi l'eau, il y a plein de thématiques communes, bien plus qu'on imagine. Et en fait, la rue, c'est le premier espace commun qu'on fréquente chaque jour. Et prenons-en soin, et longue vie au busking.
Et puis soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Merci à toi, Christophe. Merci, Girafe.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.